Mais d'abord, vous l'avez entendu aux nouvelles, il y a eu des rassemblements illégaux dans Outremont en fin de semaine, en particulier dans une synagogue où la police de Montréal a dû intervenir non pas une, non pas deux, mais à trois reprises. Et là, les représentants de la communauté disent « Franchement, la police a exagéré ». Et là, la police dit « Hey, on a été chargé, bousculé, là ». Ils connaissent les règlements, ils ne les respectent pas, on est exaspéré. Et là, je me suis dit, tiens, Lise Ravary pourrait nous en parler. Bonjour Lise.
Bonjour Bernard.
Parce que toi, tu t'es convertie au judaïsme et,
oui.
et plus encore, tu as écrit un livre, Pourquoi moi, ma vie chez les Juifs hassidiques. Et tu as passé du temps, notamment dans la communauté Lubavitch, qui est une communauté juive ultra-orthodoxe.
Eh oui, hein, c'est
Et ceux dont on parle en fin de semaine, ce sont effectivement des membres d'une communauté ultra-orthodoxe. Alors là, tu te proposes, dans le fond, de nous expliquer un peu qui ils sont, d'où ils viennent, le fameux chapeau qu'ils portent, qu'est-ce que ça veut dire, chapeau de fourrure. Non, mais c'est toutes des questions qu'on se pose. Et si vous en avez des questions pour Lise, vous pouvez déjà commencer à m'écrire au 98985. Je vais en prendre quelques-unes pour voir quelle réponse elle va nous donner. Mais d'abord, mets-nous un petit peu la table.
OK. Je veux tout d'abord dire que je n'appartiens plus à cet univers-là depuis très longtemps. Mais j'ai quand même beaucoup appris parce que quand on a la chance, si on peut dire, de pénétrer à l'intérieur de quelque chose qui est extrêmement fermé, il me semble qu'il y a comme un petit moment d'apprentissage et je m'en suis pas gênée.
Non, mais alors, c'est très bien. T'étais comme une... tu étais sincère dans ta conversion, j'en doute pas.
Mais tu étais
aussi une observatrice, hein?
Ça c'est une déformation professionnelle.
Absolument.
Alors, d'abord, acidim, qui est en hébreu au pluriel, qu'est-ce que ça veut dire? Essentiellement, si on prend l'étymologie du mot, ça veut dire quelqu'un qui aime Dieu.
Okay.
C'est pas plus compliqué que ça.
Oui.
C'est un mouvement mystique qui est né au 18e siècle en Pologne et dont leur ambition était de décoincer, si on peut dire, le judaïsme normatif axé sur l'étude et le Talmud et très, très, très rigide. Et eux disaient, les gens qui sont pauvres, qui savent pas lire, il faut quand même qu'ils aient un lien avec Dieu. Alors, ils ont créé, si on peut dire, ce mouvement-là qui est basé sur la prière, la charité et, crois-le ou non, parce que quand on les regarde, on n'a pas l'impression qu'ils ont beaucoup de plaisir, mais c'est le cœur de cette vie-là, c'est le chant et la danse.
OK.
C'est des gens qui chantent beaucoup, qui dansent. Bon, évidemment, là, on pourrait rentrer dans les détails. Les gars chantent tout seuls, puis les filles chantent toutes seules, là, évidemment. Il y a beaucoup de la ségrégation entre hommes et femmes est très importante.
Oui.
Ensuite, la façon dont ils s'habillent.
Oui.
Hein?
Oui.
Pourquoi s'habiller comme ça? Le chapeau, ça s'appelle un shtremel. Et tout ça, la redingote noire, c'est comme la façon dont s'habillaient leurs ancêtres quand ils étaient en Europe de l'Est au 18e siècle.
Donc, dans les années 1700, OK.
1700. Et pour eux, c'est une façon de se distinguer, c'est une façon de respecter les ancêtres, qui est quelque chose d'important, et aussi... de créer et de maintenir une distance avec le monde non hassidique. Et quand je dis le monde non hassidique, j'inclus là-dedans les Juifs, on peut dire, ordinaires.
Oui.
Parce que ça s'aime pas, ça se parle pas. Même chez les hassidim, à Montréal, il y a à peu près 6 ou 7 groupes différents là, avec leurs propres coutumes et ainsi de suite. Même entre eux, ils se parlent pas.
Ah oui?
Ah oui. Et si c'est
donc
un...
c'est très sectaire, là.
Ah, c'est très, 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 très sectaire, même à l'interne.
OK.
Donc comme on dit, des
donc,
fois,
faut
il faut
pas mêler, on peut
faut pas...
Faut
pas le prendre personnel, là.
Non, je comprends. Mais j'allais dire, c'est pas parce que tu rencontres un juif ultra-orthodoxe avec une tenue sombre ou avec, j'espère que je peux le dire sans porter, sans offusquer qui que ce soit, mais les boudins, comme on dit, là.
Oui, c'est ça. Oui, t'as le droit,
bon,
voyons.
Mais c'est pas parce que tu rencontres un juif comme ça, qui appartient à un groupe, puis à un autre qui y ressemble un peu, mais qui appartient à un autre groupe, qui sont dans la même gang.
Exactement. Exactement. Et tu, des fois, tu t'observes, tu sais, à Outremont, comment les danses sur les trottoirs, qui passe à côté de qui.
Ouais.
Et tu vas voir des fois que même deux hommes, il y en a un qui va traverser la rue pour pas voir l'autre.
OK.
Hein? Alors ça c'est...
Puis la raison pour laquelle ils sont isolés comme ça, ils se tiennent loin des non-assidiques, est-ce que c'est parce qu'on est impur, hein, quelque part,
à leurs yeux? Non, absolument pas.
Okay.
Non, c'est pas ça. Bon, écoute, c'est sûr, Bernard, que dans tous les groupes, chez nos bons de souche et tous les groupes de ce monde, il y a des tatas, il y a des crétins, puis il y a des gens bien. Hein?
Ben oui.
Hein? Bon. Alors, chez les hassidim, c'est la même chose.
Bon.
Il y a des gens très bien, il y a des gens pas bien, il y a des gens franchement désagréables. Mm-hmm. Alors, ils ont, de la façon qu'ils vivent, leur retrait par rapport au monde, aussi appelons-le non-juif, est un peu différent selon, comme les Lubavitch, par exemple, eux sont pas mal ouverts, ils parlent, et ça, alors qu'il y en a d'autres qui sont vraiment très, 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 très fermés. Et la raison pour laquelle notre monde les effraie, en fait, ces gens-là, là, pourraient vraiment, en une phrase, décrire ce qu'ils sont, ce sont des résistants à la modernité.
OK.
C'est
mais ça, c'est
eux,
pas une raison. C'est pas une raison pour ne pas respecter les consignes. Pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas les consignes, Lise?
Mais certains les respectent, d'autres les respectent pas. Encore là, moi je sais.
Est-ce que c'est parce qu'ils se considèrent comme ils considèrent que Dieu les protège du virus?
C'est un peu beaucoup ça. Toute leur vie est réglée comme du papier à musique, avec en haut de la pyramide ce qu'on appelle le rébé. Le rébé, c'est pas un rabbin, c'est plus. C'est le leader de leur communauté. Mmh. Et le rébé, finalement, décide de tout. Et s'ils décident qu'ils vont laisser faire les règlements sanitaires, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelqu'un dans l'organisation, dans la hiérarchie qui a dit que c'était correct.
Mais là, on l'a vu, là, sur les réseaux sociaux, des représentants de la communauté juive, comment il s'appelle l'ancien...
Mitch Garber,
qui est de confession juive, qui a dit, moi, là, je suis pas content, c'est pas correct que cette communauté ultra-orthodoxe ne respecte pas les consignes. Moi, je condamne ça. Moi, ce que j'ai senti, là, c'est parmi les représentants de la communauté juive, ils ont condamné durement ce comportement-là. Et je pense qu'ils ont peur que les gens généralisent à l'ensemble de la communauté juive. Et si j'étais à leur place, j'aurais cette crainte-là également.
Écoute, je vais aller plus loin, puis peut-être que tu l'as dans la tête, mais c'est le genre de comportement qui pourrait être à la source d'attitudes, de paroles et de gestes antisémites.
Tu as raison.
Et je veux dire, plus vite tu te rends compte de ça, mieux que c'est. Mais ceux qui sont pas parlants, tu sais, il y a des gens dans ces communautés-là qui vont s'asseoir avec toi puis débattre de tout ce que tu veux pendant des heures. Mm. Puis comme je disais tantôt, il y en a qui te regarderont même pas. Ça dépend sur qui tu vas tomber pour essayer d'avoir. Tu sais qu'à Outremont, il y a une conseillère de Projet Montréal.
Oui.
Qui est elle-même une jeune femme hassidique.
Madame Polak.
Madame Polak.
Mindy Polak.
Alors, Mindy Polak, là, je suis persuadée que les comportements qu'on a vus en fin de semaine, je peux te garantir qu'elle trouve ça bien épouvantable.
Bon.
Et probablement la majorité, mais t'as des têtes brûlées partout.
D'accord.
Je regardais les photos, je pense qu'il y a pas mal de jeunes. D'ailleurs, tu sais que 65% de la communauté hassidique de Montréal a moins de 25 ans.
Ils ont des grosses familles. Ah, ils ont, écoute, ils ont des grosses
familles. Ils ont des grosses familles. Et il faut que je te dise, les femmes assidiques. Oui. Là, là, écoute, il y a 12 enfants dans la maison. Elle, elle travaille parce que monsieur, lui, il apprend la Torah à temps plein dans une yeshiva. Alors, elle, elle a une job. Elle enseigne dans une école. Et en plus de ça, elle fait les repas, elle s'occupe de tout. Elle fait le Shabbat tous les vendredis. Tu sais, c'est comme faire un party de Noël.
On dirait nos grand-mères canadiennes-françaises dans le temps.
Exact. Elles sont tellement actives, tellement indépendantes de leur mari. À un moment donné, il y en a une qui me dit « Pourquoi tu n'es pas souper à la maison avec tes enfants pour le Shabbat? Tu » sais? Alors, j'ai dit « Oui, d'accord. » Mais j'ai dit « Est-ce que tu veux demander à ton mari? » Elle me regarde, elle dit « Quoi? Demander à mon mari? »
C'est moi qui est boss.
Elle dit « Hey, c'est toi la féministe, puis tu me dis si j'ai demandé à mon mari? » Elle était sur le CUL.
D'accord. Alors là, j'ai des questions des auditeurs, là. Oui. Les boudins, c'est quoi les boudins? D'abord, est-ce que c'est des vrais boudins ou est-ce que c'est une perruque, demande un auditeur?
Non, non.
Ou une auditrice,
c'est que
là?
Dans l'Ancien Testament, à quelque part, je me rappelle pas quel verset, là, on dit que l'homme ne doit pas couper les coins de ses cheveux, les coins de sa tête. Alors, c'est ça. Il faut que... Et l'idée de mettre des boudins, c'est que ça soit plus propre que de juste avoir les cheveux à côté des oreilles qui pendent.
D'accord. Question, est-ce que le groupe de Boisbriand, c'est un des groupes distincts là, dont tu nous as parlé.
Le groupe
de Boisbriand, il n'y a pas de lien avec un des autres groupes ultra-orthodoxes de Montréal,
pas,
hein?
Pas vraiment. C'est vraiment un groupe très à part.
D'accord.
Eux, quand ils sont arrivés, parce que tous ces gens-là sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont tous, d'une façon ou d'une autre, des réfugiés de l'Holocauste. Et ça aussi, ça explique aussi leur réticence à s'approcher des non-juifs. Parce que pour eux, la mémoire de l'Holocauste, c'est comme si c'était hier matin.
Puis on a vu un peu de ça, puis je l'excuse pas. Au contraire, elle a été condamnée. Mais quand ils ont traité les policiers de nazis, là...
Ah, c'est épouvantable.
Ça, c'est épouvantable. Et tu sais que ça s'est produit... La même chose s'est produite en Israël, hein. C'est fascinant. Les ultra-orthodoxes en Israël représentent 10 % de la population, mais ils représentent plus de 30 % des cas. Des personnes donc atteintes de la COVID parce qu'ils refusent de respecter...
Ils sont rendus à 40.
40 % des cas,
40 %,
bon. Et quand les policiers interviennent en Israël, puis ils ont dû intervenir à de multiples reprises, ils se font traiter eux aussi de nazis. Imagine-toi, tu as des juifs ultra-orthodoxes qui traitent d'autres juifs policiers de nazis. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans.
En Israël, la tension entre les juifs ultra-orthodoxes et la population en général, comme tu dis, c'est quoi? Combien on a dit? 16% de la population?
Non, moi j'ai lu 10%.
10%. C'est un petit peu plus, mais bon, c'est pas tellement plus que ça. Alors, c'est sûr que il y a une tension qui monte d'année en année. Tu sais, par exemple, les Juifs orthodoxes, ceux qui étudient la Torah dans des collèges talmudiques, ne font pas leur service militaire.
Ah oui, puis ça met en furie.
Et ça, là, tu veux mettre un Israélien laïc dans tous ces États et tu lui parles de ça.
OK, vite, pourquoi une perruque pour les femmes? Vite.
Parce que la femme doit garder ses cheveux, qui sont un attrait sexuel, pour son mari. C'est la même chose que... C'est la même raison que le
foulard. Donc, elle a des cheveux
foulard,
sous sa perruque. Elle a des
cheveux
sous sa
perruque. Écoute, encore là, dans les différents groupes, il y a des groupes qui sont plus stricts. Et aussi, c'est plus facile. Il y en a qui... C'est vrai qu'elles se rasent les cheveux, parce que porter une perruque toute la journée quand t'as des cheveux en dessous, c'est pas très... C'est pas plaisant.
Ouais.
Mais, en même temps, moi, j'avais une amie qui avait des cheveux noirs... magnifique chevelure qui allait jusqu'à la taille.
Oui.
Et puis, elle se mettait ça en dessous de sa perruque, puis
elle gardait ses cheveux naturels pour son mari.
Exactement.
Très bien, Lise. Merci.
Ça me fait plaisir.
Que c'est une bonne idée d'en discuter comme ça.
On n'est pas des tonnes qui ont pénétré ce monde-là.
Non.
Pour un certain temps, écoute, j'ai été 5 ans avec eux.
Non, je suis très content qu'on en ait discuté. Ça va contribuer à, à défaire peut-être certains préjugés.
Donc,
hein?
Ce ne sont pas nos ennemis, mais parfois, ils sont leurs pires ennemis.
Voilà. Bonne conclusion, Lise Ravary. À demain.
À demain, mon cher.
Après la pause, on fait quoi avec le confinement après le 8 février? Est-ce qu'on permet à certaines régions de ne plus être soumise au couvre-feu parce qu'il y a très peu de cas. Est-ce qu'on commence à faire des exceptions? Vous pouvez m'écrire, vous le faites déjà. On va parler avec trois représentants de trois régions différentes.